R22 Tout le monde, antenne École du Magasin, Take You There Radio.
Alors, tu disais que vous n'étiez pas tous artistes à diriger. Enfin, à organiser.
À organiser, à s'investir dans le lieu, du coup, on n'est vraiment pas tous dans des pratiques artistiques. Pour faire simple, pour expliquer le fonctionnement du lieu, pour comprendre un peu quoi. C'est qu'il y a deux assos, peut-être bientôt trois, qui gèrent la programmation, qui est officiellement du 102. Donc là, c'est les gens dans ces associations, c'est tous des gens qui ont des pratiques artistiques.
C'est des artistes.
Tous. Ouais, on va dire que c'est tous des artistes à des niveaux différents, ou des gens qui sont aussi plus dans la technique. Mais pour moi, il y a des moments, même si les gens ils n'ont pas forcément de production personnelle, moi, je trouve que c'est... Du coup, sur le point de vue ou sur l'engagement, c'est un peu le même...
Oui, il n'y a pas de distinction.
Ouais, y a toujours ce truc où, en fait, d'un coup, t'es derrière la... C'est toi qui programmes, quoi. Et il y a, donc là, comme association, donc Archipel Urbain qui fait la musique expérimentale improvisée. Il y a Artung qui fait le cinéma expérimental. Même dans Artung, il y a des gens qui sont pas artistes, en fait. Je dis ça, mais il y a des gens militants, en fait. Quoi, qui sont plutôt dans des pratiques de lutte sociale et activistes. Et mais puis, au sein du 102, il y a aussi la CNT, donc, qui est un local associatif. Après, ce n'est pas des gens qui programment, les gens qui sont à la CNT, mais ils ont leurs locaux ici.
Mais ils ne font pas des concerts pour...
Alors, les gens de la CNT font des fois des événements
pour
avoir de l'argent ou pour des sujets précis où ils font venir des intervenants et ils font des soirées de débat, ils montent des films aussi. Mais c'est pas leur vocation, en fait. Ils sont quand même c'est un syndicat, donc ils sont actifs... Dans leur syndicat, quoi, donc directement sur le terrain, les travailleurs, on va dire.
Mais je me suis toujours demandé d'ailleurs si ça conditionnait, j'ai pas l'impression, mais. C'est-à-dire, parce que c'est anarchiste la CNT.
Ouais, mais c'est anarchiste, mais c'est un syndicat, et du coup, la CNT s'est divisée en deux, la CNT AIT et CNT Vignol, et là c'est très rare, ils utilisent les mêmes locaux. Mais il y a longtemps, ils se sont séparés, il y a très longtemps. Et là, c'est assez rare. Donc, il y a une CNT qui est complètement anarch, qui n'a pas de vocation syndicale. Mais, et puis, une autre qui a une vocation syndicale, où du coup, ils ont mis de l'eau dans leur vin, en gros. Ils sont toujours comme absolus d'une révolution, mais ils sont sur le terrain pour gérer des problèmes et essayer de rajouter des gens dans leur troupe. Quoi.
Mais la question que j'avais, c'était si tu présentais un truc avec un... Parce que dans les œuvres d'art, il y a une idéologie où ça n'échappe pas à ça. Mm-hmm. Et si tu présentes quelque chose qui est complètement en dehors de leur frame, vous, dans vos assos, enfin, je dis vous, mais parce que tu fais partie de l'archipel.
Qui serait en dehors de c'est-à-dire de leur... que le propos soit...
Ouais, qui aille vraiment contre, mais de façon violente, ce qu'ils, eux, proposent. En tout cas, ils sont anarchistes.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est quand même, du coup, c'est...
Ça autorise une certaine liberté.
Ça autorise une liberté, en fait. Je pense qu'il n'y a pas ce problème-là. Il y a plus des fois un problème de compréhension avec des gens qui sont pas dans ce syndicat, mais qui sont dans le milieu anarcho-punk. Et du coup, il y a un local de répète avec des punks qui répètent et qui sont vraiment dans une pratique gratuite, donc avec tout ce truc de prix libre... tout ce lien entre plein de lieux à travers l'Europe, même à travers le monde, où c'est des anars, des anarchistes, mais qui n'ont pas de bannière, on va dire, pas de bannière officielle, quoi. Et du coup, là, c'est vrai que des fois, il y a des choses où tu sens qu'il y a un truc, ah ouais, vous êtes les artistes, moi, ça m'est arrivé de proposer des fois ou de dire, ah ouais, on pourrait faire de la musique ou je sais pas quoi ensemble, puis ah ouais, mais nous, on joue pas comme, on n'est pas aussi bon que vous, alors, ils pensent qu'on est meilleur, alors qu'en fait, souvent, techniquement, dans un jeu traditionnel, ils sont vraiment meilleurs parce que c'est des gens qui bossent depuis des années, tu vois. Donc il y a une espèce d'incompréhension. Mais même de notre côté aussi, il y a des moments où on pense des choses. C'est comme des fantasmes de groupe.
Oui, parce qu'ils ont aussi, je ne sais pas si c'est ce que j'ai vu, mais il y a un truc d'esthétique très marqué.
C'est marqué, ouais.
Même dans leurs habits, leur comportement.
C'est une communauté, en fait.
C'est un style de vie, quoi.
C'est un style de vie, c'est une communauté et ils ont des... ils sont vegan, ils sont tous végétariens la plupart du temps. Et là, dans l'eau, il y a même les Las Vegan, c'est une assoce de. Pour le coup, ils sont montés en association qui fait de la bouffe vegan.
Mais pourquoi c'est un spot à eux ici? C'est à cause de la CNT ou c'est...
Historiquement, parce que je pourrais pas te faire le lien, je pourrais juste tenter une explication, quoi, une hypothèse. C'est que le 102, quand il y a des gens qui l'ont transformé en squat, ça a été pendant 2 ans, il n'y avait plus rien. La ville l'avait racheté à l'entrepreneur qui avait arrêté de bosser ici. Il y a tout de suite eu du rock indépendant, en fait.
Ok.
Donc ça a brassé à la fois des gens qui font du free jazz et puis à la fois du punk, et je pense que c'est resté cette culture là et puis les gens qui sont arrivés qui dans fin 90 qui sont arrivés pour amener du cinéma expérimental et de la musique expérimentale et improvisée, c'était des gens qui écoutaient du rock aussi. Donc je pense qu'il y a eu des liens évidents et la gueule du local le répète, c'est vraiment une caverne de groupes de rock, de groupes de punk rock, tu vois. C'est cette esthétique de bâtiment. Et effectivement, bah, ça se recoupe sur des manières de faire par rapport à la musique expérimentale ou improvisée.
C'est plus en termes économiques, non?
Ouais, c'est sur ces manières-là où en fait, c'est pas des musiques expérimentales. Alors, il y a plein de festivals maintenant, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y a quand même. Ça bouge un peu, où il y a plus d'argent, on va dire. Mais il y a énormément de gens qui programment, qui sont musiciens et qui ont des petits lieux associatifs ou des lieux privés et qui font des trucs, en fait. Du coup, finalement la culture anarcho-punk, elle se croise sur la manière de diffuser. Où bah, il n'y a pas de tube, c'est pas grave, on fait des concerts, on le déclare à personne et on avance, quoi, en fait. C'est dans le faire, on va dire. Mais dans le faire assez concret qui demande pas quoi, c'est pas que ça demande pas d'organisation, mais ça demande pas tout le truc administratif que personnellement je connais pas, mais de quand tu montes des projets maintenant, quoi, avec des dossiers de subvention, avec des rapports avec des institutions, etc., quoi. Nous, on s'est posé la question, là on est en renouvellement de convention, on s'est dit, mais ça se trouve cette nouvelle mairie qui est écolo de gauche, ça se trouve ils vont nous filer un bail emphytéotique. Tu sais, c'est un bail ad vitam. Et en fait, on serait emmerdé de plus avoir le rapport de force qui fait que on veut défendre ce lieu et il restera comme ça. Et je sais, quand on a eu des discussions entre nous, on se disait, putain, mais s'ils nous font signer un truc qui nous dit, en gros, c'est ad vitam.
Vous êtes mort.
Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus ce truc de cette tension qui fait qu'en fait, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a un groupe, c'est pour ça que tu fais. Que tu dois faire groupe, en fait. Que tu dois être. Tenir des choses un peu droites, mais qui sont pas qui sont indépendantes de nous-mêmes, en fait. Et si d'un coup c'est complètement ouvert, en fait, quelle légitimité les gens qui tiennent le lieu ont? Pourquoi ce serait pas d'autres gens? Et que du coup l'histoire du lieu, elle tient là-dessus.
Un combat.
Ben un combat à des manières de faire. Par exemple, le combat de. C'est très pragmatique, mais c'est un combat qui politiquement qui est hyper intéressant. Je sais que j'en parle à pas mal de gens parce que, à mon avis, c'est une bonne voie, que je trouve. C'est le combat qu'il y a eu où ils ont essayé de faire comprendre à la mairie qu'ils pouvaient faire des travaux de mise aux normes eux-mêmes dans les années 90. Et que la mairie, elle n'a pas compris. Et qu'à force, elle a compris. Ce qui fait que du coup, c'est une autonomie, on va dire, complète.
Est-ce que dans leur façon de faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse...
Bah ouais, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse... Alors oui, il y a quand même des bureaux de contrôle qui viennent vérifier parce que c'est quand même...
Oui, mais les travaux sont faits.
Mais les travaux sont faits par nous, en fait.
Ouais, ça c'est bien parce que c'est...
Bah du coup,
c'est marrant parce que en fait, eux, ils sont là, oui, il faut faire appel à un entrepreneur, ils sont dans une espèce de mécanisme...
Bah c'est des mécanismes qui sont logiques pour eux et c'est bien compréhensible. Mais en fait, la réalité fait que normalement, que... Plein d'associations pourraient gérer de la même manière que c'est géré ici.
Mais il y a un truc qui est marrant, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de mettre une chaise dans la rue, quoi. C'est en fait, on le fait pas, mais pourquoi? C'est pourquoi on fait les choses comme ça, en fait? Est-ce qu'on pourrait pas les faire nous-mêmes ou...
Bah, et ça, c'est ça qui recoupe vachement avec le milieu anarch, en fait, des squats. C'est que du coup, bon, bah, le do it yourself, ou fais-y toi-même, comme on dit ici, quoi. C'est en fait c'est une réappropriation de dans cette société d'espèce de confiance générale où tu dois faire appel au plombier, au machin, au bidule,
hyper professionnalisé,
hyper dévisé. Bon bah, en fait il suffit d'avoir une personne qui est un peu compétente et puis tu fais
puis ça peut être fait aussi un peu mal, enfin tu vois, par quelqu'un qui apprend.
Et puis en fait les bons bricolages, ça peut durer 10 ans, 20 ans c'est pas forcément mal fait parce que ça déborde un peu, quoi. quoi, ça peut être durable, quoi.
Ouais. Puis il y a un truc aussi d'habiter un endroit et de s'en occuper. Je sais pas, moi j'ai l'impression. Bon, après, c'est peut-être trop personnel, mais quand tu fais un projet avec des lieux, des objets, pour moi c'est bien aussi de les toucher, quoi. Mais vraiment, pas seulement dire on met ça là. Tu demandes à quelqu'un qui est pas toi de l'accrocher.
Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il y a. Après, bon, après forcément, hein, dans l'organisation, il y a forcément des spécialisations. Hein, tu peux pas. Tu peux pas tout faire sans space. Ouais, y a des gens qui sont plus compétents dans certaines choses. Mais ouais, comme tu dis, en fait, ça fait que les gens qui. On va dire les gens qui gèrent le lieu, ils sont tous. Ils savent tous comment tout fonctionne à peu près. Mm. Et ça, la passation, elle se passe par là. Et les changements d'époque, de gens, de groupes qui viennent gérer le lieu, ils se passent comme ça, en fait. C'est très long parce qu'il faut apprendre tout. Comment, techniquement. Ça tourne, quoi, en fait. Comment la machine, elle tourne. Du coup, ce rapport à l'autonomie, c'est-à-dire que là, a priori, il pourrait d'un coup y avoir une disparition. On est 10, il pourrait y avoir une disparition de 9 personnes, quiconque, quoi. Une personne qui se retrouverait tout seule, elle pourrait continuer, ou en tout cas apprendre aux autres comment ça se passe ici, apprendre l'histoire du lieu, quoi. Il y a vraiment ce truc de passation à l'oral, il y a aussi des écrits, quand même, mais... Il y a vachement ce truc de passation à l'oral, en fait. Ça c'est aussi un fait qui est assez étonnant dans ce lieu. Même si on note nos comptes rendus d'AG pour pas passer trop de temps en compte rendu de réunion, il y a énormément de choses qui sont... Si on l'ordre de la vie dans le lieu, bah, du coup, tu croises des gens. Ah ouais, au fait, c'est ça. Ah, ça, c'est fabriqué comme ça. Ah, demain, il y a ça. Ah oui, ça se passe comme ça. Ou c'est...
Bon, ouais, nous on s'en est rendu compte quand on a bossé aussi. Moi je trouvais ça assez confortable. Même parce que je suis peut-être plus à l'aise dans ça que dans.
Oui, et puis t'as déjà fait. Tu m'avais raconté que t'avais monté un truc où vous faisiez de la programmation, quoi, de diffusion, quoi. En fait, qu'à partir du moment où tu commences à faire un tout petit peu, t'as des réflexes. Une sorte d'habitude où c'est pas stressant, quoi.
Mais c'est marrant, et c'est le principe aussi de ça, c'est que c'est un truc que tu t'en rends pas forcément compte. Moi je m'en rendais pas compte, mais dans les grosses institutions, ce qui me gêne, c'est pas forcément, après ça doit être lié, mais des grosses orientations politiques qui me dérangent plus que ça, mais c'est plus aussi ça, quoi, le fait que chacun ait un service des machins, un service des machins. Chacun a sa place, tu sais.
Ouais, c'est ultra protocolaire et personne ne va déborder, en fait.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire que dans un lieu comme le 102, il n'y a pas des protocoles. Mais c'est des protocoles qui sont pour tout le monde.
Oui, c'est des protocoles communs.
C'est des protocoles communs et ce n'est pas des protocoles de division où il faut aller voir telle division pour avoir accès à ça. Ou telle personne pour avoir accès à ça. C'est des protocoles parce qu'on était obligé d'avoir un langage commun, quoi. C'est plus de l'ordre du langage ou du truc du quotidien.
Parce que ça crée pas mal d'enjeux de pouvoir, en fait, si chacun est responsable d'un truc. Mm. C'est-à-dire que lui, si je sais pas, si tu l'as vexé ou pas, il peut ralentir la chose.
Ouais. Ouais, tu peux avoir des. Alors, il y a des enjeux de pouvoir même ici, hein. C'est forcé, quoi. Genre, on est des êtres humains. Je crois absolument pas au fait que. Tu peux lisser quelque chose, ça serait même triste parce que c'est aussi marrant de s'engueuler à des moments ou de défendre des points de vue
hyper radicaux. Oui, mais il y a un affrontement plus direct ici.
Les réunions, il y a souvent. En fait, il y a un principe de base, c'est qu'on fait pas de. On vote pas. Les choses ne se votent pas. Donc du coup, ça peut, des fois, on passe des heures à discuter d'un détail, mais qui peut paraître infime, mais il faut qu'on trouve une manière de trouver un sens ou de trouver quelque chose dans le verbe. Pour que ça soit accepté par tout le monde, c'est pas vraiment un consensus. Le terme consensus, c'est rarement utilisé. C'est vraiment quelque chose sur la discussion. Alors des fois, t'es à 1h du matin et puis tu discutes de comment ranger la cuisine, quoi. Alors ça fait un peu colloque, comme une colloque, tu vois. Mais en fait, c'est aussi ça l'organisation en commun, quoi. C'est-à-dire du temps de verbe, de palabre, quoi. Du coup, il y a une espèce de y a souvent les gens qui traversent ce lieu et tu t'en rends compte, il y a une espèce d'étirement du temps. Comme si d'un coup, ça ressemblait plus à cette vie hyper... Donc comme on disait sur les institutions où voilà, c'est divisé, Et puis c'est ce truc qui est aussi divisé par le temps. Mmh. Et qu'il y a vraiment quelque chose ici qui, des fois, ça peut être hyper rapide.
Oui, mais ça peut être hyper lent.
Ça peut être hyper lent, mais hyper lent, étiré sur plusieurs années pour prendre des décisions, quoi. Ou pour que des choses soient faites, quoi.
Mais c'est bien, c'est plus... ouais, après, je suis peut-être idéaliste. Ou... Je sais pas, c'est plus vivant, dans le sens.
C'est
une échelle de temps. C'est l'échelle où on perçoit le temps, aussi.
Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu organique. C'est-à-dire qu'il y a des décisions ou des choix qui vont être faits, et puis en fait, ils vont pas être activés tout de suite. Et puis on va revenir après, dessus. C'est... Ouais, il y a vraiment un truc... un truc qui bouge, quoi, assez lentement ou assez rapidement, c'est... Ouais, non, c'est organique, quoi. Tu comprends pas comment ça fonctionne, aussi. Et puis, le fait de discuter, quoi. C'est... Je pense que ça s'est pas forcément bien passé avec des personnes, des fois. Il y a eu des moments de clash, un peu, et c'était à cause de ça, quoi, qu'il pouvait pas y avoir de discussion.
Parce que eux, ils...
Parce que s'il y avait aussi des histoires... personnel et tout, de gens qui ont vu le lieu d'une certaine manière et tout, et en fait, ça s'est super mal passé, quoi.
Quand tu dis personnel, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont une vision personnelle des choses?
Ouais, vision personnelle, ou pas accepter que certaines personnes arrivent, prennent la relève, parce qu'ils avaient aussi un peu d'autres méthodes, et que du coup, il n'y a même pas eu, à partir du moment où il n'y a plus la discussion, en fait, ça ne marche pas du tout au sein d'eux. Tu vois, tu peux travailler dans une institution, et puis en fait... toi t'es technicien puis l'autre elle est trésorière et vous parlez pas, vous aimez pas, le truc va fonctionner et vous allez travailler côte à côte pendant 10 ans peut-être, et là ça marche pas d'ici, en fait tu peux pas,
t'es obligé d'affronter le problème humain,
voilà, ouais.
Les relations humaines, ouais. En tout cas
t'es obligé, c'est vraiment inhérent à ça, et du coup il y a un truc aussi qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions avec tous les utilisateurs du 102 trois fois par an, on fait des réunions un peu moins informelles que celles qu'on fait chaque mois pour voir les gens qui font pas de la programmation, parce qu'il y a les gens qui font qui répètent, il y a la CNT, il y a aussi Grésil et Résine qui sont des gens qui font de l'internet libre,
ouais.
Et du coup un peu mixer tous les collectifs pour qu'il y ait un peu du croisement humain qui se fait pas forcément, hein. Les gens de la CNT viennent pas forcément
voir les concerts,
nous on va pas forcément voir leurs conférences
c'est pas très grave.
Du coup il y a cette liberté là aussi qui est possible dans le 102 et qui est hyper agréable par rapport à ce truc de rigidité, tu vois, d'artiste, quoi, qui va dire ouais nous ce qu'on kiffe c'est ça, du coup on veut défendre que ça, et ben là en étant au 102 t'es obligé de te confronter à ces autres réalités, et du coup ça, le terme que je te disais tout à l'heure, j'ai pas dit là, le truc que je trouve qui est dangereux dans la culture en général, les cultures, c'est l'entre-soi. L'entre-soi des communautés. Et
ça, c'est un risque d'autant plus grand avec le fonctionnement que tu me décris ici.
Ben ouais, mais sauf que vu qu'il y a d'autres choses dans le 102, si d'un coup la CNT s'en allait, que les gars du local le répètent, arrêtez, trouver un autre local, qu'il n'y ait plus des gens qui fassent de l'internet libre, qui disent l'art et ils en ont rien à foutre. Bah en fait, ça te renvoie quoi de la société? C'est-à-dire que d'un coup, tu vas faire venir des gens qui sont que artistes parce que toi, t'es artiste. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fais un lieu d'art qui est parcouru que par des gens qui...
Oui, il y a un truc auto...
c'est complètement auto-centré et c'est vraiment l'entre-soi. Et l'entre-soi, moi, je trouve que c'est hyper dangereux parce que tu auras beau avoir des super projets et les gens seront super contents, ce sera que des gens qui sont de ton milieu qui vont venir et tu vas jamais toucher d'autres personnes. Alors on n'a pas une vocation, le 102 se dit pas ouais on ouvre à tout le monde machin, ces autres personnes qui font partie du 102 qui l'utilisent, en fait ils font pas du tout la même chose que nous, et c'est super parce que c'était plus que comme, même si c'est des choses précises aussi, c'est un peu plus comme l'idéal, la cité où les gens se rencontrent et discutent de ce qu'ils font, quoi. Il y a quand même ce truc là de...
Mais c'est un truc de... C'est marrant, ça va aussi de pas aller dans l'ultra spécialisation, parce que moi je vois dans, je sais pas, ce que je connais, parce que je viens d'une école d'art, il y a tout un tas de, pour être pour être artiste, pour avoir une galerie, pour réussir professionnellement, on va dire. Il y a tout un tas de techniques, parce qu'on peut voir ça d'un point de vue hyper... non, mais c'est un génie machin, mais non, il y a tout un tas de techniques orales, mais qui sont hyper spécialisées et qui ne survivent pas d'ailleurs au milieu de l'art contemporain. C'est-à-dire que si tu vas dans un bar, si tu vas dans un stade de foot, tu peux t'inspirer de ce que tu entends dans le bar et dans le stade de foot. Enfin, quoique les discussions de comptoir, ça peut être un peu chiant, mais enfin, pas très intéressant à réutiliser. Mais je pense que tu peux plus t'inspirer de ce qui se passe en dehors d'ailleurs, pour nourrir. Ta capacité à l'oral dans le milieu de l'art, que le contraire, je suis pas sûr que ça fonctionne.
Ouais, ça marcherait pas. Ouais.
Et du coup, je sais pas, je pense que ouais, c'est de ça dont tu parlais, j'ai l'impression. Je sais pas comment je suis arrivé là.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ce truc de. Bah, de pas oublier que toi, tu te situes dans un champ.
Mais qu'il y en a d'autres.
Et qu'il y en a d'autres. Et que genre, ça, peut être des, ça peut être des trucs d'inspiration, mais ça peut être aussi des choses de manière de faire. Je veux dire, tu peux avoir envie de fabriquer tel objet artistique, telle œuvre ou telle chose, et qu'en fait pour y arriver, ben c'est super de rencontrer des gens qui font de l'internet libre, je sais pas, pour X ou Y projet, ou alors des gens de la CNT qui ont une pratique de la réunion ou des choses comme ça.
Ce que je trouve compliqué par contre, c'est parce que c'est subtil quoi, parce que tu peux aussi tomber dans un truc hyper dans le ressenti ou tu sais, tu n'aimes, enfin les gens qui aiment pas l'art, tu vois, ça existe quoi, des gens.
Ah bah ouais, non, mais là justement c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe là au 102, sans dire que c'est des gens qui aiment pas l'art, mais c'est que du coup il peut y avoir un truc un peu stigmatisant de dire ah bah voilà c'est les artistes, du coup tu fais vite la jonction un peu débile. Je grossis vraiment les traits hein, parce que c'est pas vraiment ce qui se passe au 102, mais du coup artiste égale bourgeois. Du coup bourgeois égale pas bien, du coup en fait c'est pas bien. Mais en fait, ce lieu, il tient aussi parce qu'il y a des artistes. Et que si c'était un lieu uniquement militant, eh ben, peut-être que ça ferait longtemps que la mairie, elle aurait fait tabula rasa, tu vois. Genre, oula, en fait, eux,
c'est marrant,
eux ça fait chier. Et en fait, ben, d'une certaine manière, ben oui, la programmation, elle fait... pour la mairie, eh ben, y a une salle qui tourne, qui a une programmation spécifique, nickel, il n'y a pas besoin de gérer, ils sont autonomes.
Mais du coup, je trouve que c'est un truc, c'est le même mécanisme que tu décrivais avec le 102. C'est-à-dire que si un lieu, une pièce d'art ou un lieu d'art est assez exigeant en termes de propositions artistiques, il peut aussi avoir une fonction sociale en fait. Ouais. C'est-à-dire aider des gens qui ne sont pas du tout dans l'art ou à avoir un lieu, avoir accès à ça.
Et que ce soit pas cher.
Oui.
C'est ça, dans cette espèce de pression urbaine. Où tout devient hyper cher, ou alors qui prend vachement de temps pour avoir un local associatif. Là, par exemple, la nouvelle mairie n'a aucun loco possible, quoi. C'est complètement verrouillé. Ouais, non, mais si, ce chemin-là, il est assez. C'est assez probant, en fait. Il y a un côté un peu triste, parce que tu te dis le nombre de personnes qui sont militants, mais dans des luttes sociales, qui ont essayé de garder des lieux et qui ne les ont pas eus.
Il faudrait une caution artistique en fait.
Ben ouais, alors là sur Grenoble il y a des gens qui le font et qui arrivent. Il y a un lieu à Fontaine, donc c'est pas sur Grenoble mais c'est juste une ville à côté, qui squattent des maisons ou des petits bâtiments et qui font venir des familles roms, ou alors qui ont des. C'est souvent des gens qui sont du milieu féministe, libertaire, ou qui travaillent. Là je crois qu'à Fontaine c'est ça, c'est une maison qui travaille sur les femmes, du coup, vraiment un truc social sur les femmes et les femmes immigrées, etc., ou en situation régulière, clandestine. Et en fait, je crois qu'ils ont réussi à avoir une convention par leur travail social. Mais parce que du coup, c'était pas un travail militant, on va dire, entre guillemets, un peu caché, toujours contre le pouvoir. C'était clairement...
Ce qui remplace le service public.
Voilà.
Mais c'est ça aussi. Ouais.
Et c'est l'autre accès, ouais, c'est l'autre accès à des bâtiments, ouais, des choses où du coup tu peux continuer tes activités. Et là, du coup, ils ont réussi à faire comprendre à la mairie qu'en fait c'était bien, et la mairie, ils ont signé une convention, quoi.
Il y a ça aussi en jeu, parce qu'on parle d'art et tout depuis tout à l'heure, mais il y a aussi, j'ai l'impression que dans la conception française, en tout cas de la politique, l'accès à la culture, c'est une mission du service public.
Ouais.
Donc à partir du moment où tu la remplis, ils sont plus obligés de le faire, donc ils te laissent.
Donc ils te laissent le faire. Ouais. Après, quand, Je pense qu'il y a des gens qui le font dans des cadres bien légaux. Et ce qui est différent au 102, c'est qu'en fait, il n'y a aucune. Il y a très peu de choses. Il y a voire peu de choses là-dessus. C'est vraiment les gens qui ont réussi à rendre le lieu pérenne. Donc après des procès que le 102 a gagné contre la ville, et ben en fait ils ont voulu mettre une espèce de barrière, à la fois un rapport de communication entre gens qui font des choses, et puis à la fois une barrière sur en fait nous on est autonome, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on n'a aucun compte à rendre, on pourrait faire un concert dans l'année. Donc c'est même arrivé dans le 102 qu'il y a eu des périodes où il y a très peu d'activité parce que des changements, des équipes qui se fatiguent et du coup d'autres qui arrivent et du coup il y a une sorte de passation on va dire et qu'il y ait très peu d'activité, mais la mairie elle n'est pas au courant à part si elle lit le programme quoi. Nous on n'a aucun compte à rendre du tout. Tandis qu'un lieu associatif qui a un truc artistique, qui défend, qui a fait tout plein de dossiers tatati, qui arrive à monter son lieu, il y a des subventions. Il y a des gens qui sont employés. Ben ouais, il y a eu un. C'est une ville où il y a énormément d'associations, loi 1901, mais vraiment beaucoup, proportionnellement au reste de la France, on va dire, pour des agglomérations comme ça, quoi. Et puis il y a eu une culture du squat qui était. C'était une ville assez industrielle, comme Saint-Etienne.
Oui, sauf que Saint-Etienne, c'est pas.
Eh ben, à Saint-Etienne, il y a eu énormément de squats à une époque. Okay. Énormément de, il y a toujours énormément de bâtiments où c'est assez facile d'avoir accès quand tu es une association parce qu'il y a encore de la place, quoi.
Mmh. Oui, mais ce que je veux dire, ça a pas eu le même rayonnement que Grenoble en termes de ville de squat. Parce qu'à Grenoble, il y a presque un truc mythique des années 90.
Ouais, il y a un truc mythique parce qu'il y a eu des gros squats et des squats où il y avait 80 personnes et des gens qui se déplaçaient de Paris ou d'ailleurs pour venir choper un atelier ici. Mmh. En fait, il y avait le brise-glace où il y avait. Ouais, c'est ça, au plus gros, je sais pas, c'est 80 personnes. Et puis en fait, il y avait ça, puis à côté, il y avait encore deux ou trois autres squats, le Mandrake, le Tapavu, qui étaient d'autres manières de fonctionner, mais pareil, où il y avait des pratiques.
Et les 100 couverts, non.
Et les 400 couverts. Les
400 couverts.
Qui sont dans les années 2000. Okay. Et qui là, du coup, était un peu une autre politique avec un truc plus de diffusion et de s'intégrer dans le quartier. Et ça a vraiment fait chier la mairie hyper fort. Mais vraiment hyper fort parce que du coup c'était plus dans la zone géographique des anciens quartiers ouvriers, mais ça commençait à aller vers le centre-ville. Du coup il y avait un positionnement géographique et un positionnement politique qui commençait à faire sérieusement chier en fait, et ils avaient pas envie de se retaper un 102 bis quoi, qui aurait été un peu plus proche du centre-ville et qui du coup espèce de rayonnement incontrôlable et en même temps tu peux pas lutter contre. Bon, bah, ils sont allés bien fort, ils ont tout viré, et pareil pour le brise-glace et tout ça. Du coup, c'est toute la zone qui est après le magasin. Le fait est que du coup, il n'y aura jamais une soirée drum and bass au 102 ouais. Où on va vendre de la bière à 4 euros. Quoi. Ouais. Et en fait, et ce truc d'entrée aussi pas cher. Les prix, si tu regardes le prix des années 90 et les prix de maintenant, c'est les mêmes, en fait, des concerts. Les prix de la bouffe. En fait, il y a ce truc-là de se dire, bon, on lâchera pas le morceau. Alors, c'est toujours un peu plus que les anarcho-punks, parce que eux c'est toujours prix libre, prix libre, prix libre. Alors c'est génial, hein, ils arrivent à tourner, après ils ont des modes de fonctionnement collectif où ils arrivent plus à faire ça, puis il n'y a pas ce truc-là où nous on veut quand même défrayer les artistes. C'est-à-dire qu'on leur file quand même une somme, même si c'est pas un cachet légal, on leur file quand même une somme et du coup on a une certaine pression par rapport à, un résultat d'argent, quoi. Pragmatiquement, il y a un moment où effectivement tu fais venir des gens déjà que tu leur donnes pas beaucoup, souvent ça leur rembourse le train ou l'essence et puis ils gardent 40 balles, 50 balles. Ouais, ça c'est une liberté avec un truc qui tient de l'ordre de quasiment du privé comme l'événement privé hein, en fait.
Ouais.
Ça, où, en fait, bah, tu fais ton anniversaire, mais tu dis aux gens de machin, tu loues un gîte, ok, puis la bouffe, c'est toi qui gères, mais tu dis aux gens, faut filer 20 balles, ça fera la bouffe, amener à boire et 20 balles. Parce que finalement, c'est à peu près la même chose, quoi. Et si ce rapport-là a transformé, quoi, je trouve que des espaces de diffusion, il y a ce truc hermétique, comme par exemple au magasin, quoi, et puis. Puis quand d'un coup, c'est hermétique, mais en fait, t'as quand même l'impression d'être un peu chez toi parce que ça coûte pas cher.
C'est pour eux, ouais.
Ça devient pour eux,
Je suis pas sûr que ce soit. Parce que c'est marrant, parce que. En ville et tout, tu peux entendre des trucs genre le son de. C'est. Des gens qui sont entre eux, des trucs comme ça, mais en fait, puisque. C'est qu'ils sont jamais vraiment allés, je pense.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui ont une vision un peu comme ça, mais elle est pas complètement fausse. Je pense qu'elle est tenue aussi par cette rigueur artistique qui fait que y a des gens qui sont allés une fois, ils ont entendu, ils ont perçu du bruit, ils se sont dit ça va pas quoi. Et puis ce bar où effectivement il y a beaucoup de gens qui se connaissent et beaucoup de gens qui sont artistes. Du coup, quand tu débarques, c'est pas vraiment évident quoi. Moi, je sais que j'ai débarqué au 102 en connaissant déjà des gens. Du coup, c'est assez facile, mais il y a pas mal de gens qui ont débarqué.
Ah, c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui fait un produit, parce que nous, c'était l'or, par exemple. Tu vois.
Ouais.
Il y a toujours quelqu'un qui te dit, tiens,
non, t'as le droit d'y aller. Et puis, en fait, que quand nous, on voit des nouvelles personnes, et puis qui reviennent deux fois, trois fois, bon, après, en fait, moi, il y a des gens, je connais pas leur prénom, je les vois, je leur fais la bise, on discute, quoi, en fait. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure des bars. Et le fait d'être patron, et t'as plus de patron de bar, du coup, qui te reconnaît pas quand il te croise ailleurs, quoi. Qui connaît pas ta vie, tout ça. En fait, là, ce fait est qu'il y a aussi un bar, et c'est le moment où on parle de ce qu'on a écouté ou vu, ou d'autres choses, et qu'en fait, tu les revois, les gens, quoi. Par exemple, au magasin, tu rentres, il n'y a pas de bar. Tu vois, il n'y a pas d'endroit où tu...
Oui, il n'y a pas d'endroit...
Mais ouais, pour reparler un peu du truc de d'être artiste et puis de programmer et d'être dans un lieu, il y a vraiment un truc un peu total, tu sais, où t'es plus, tu joues à être toi devant toi en tant qu'artiste, toi en tant que quelqu'un qui fait jouer des artistes, des amis, et c'est hyper intéressant cet aller-retour, parce que du coup tu te dis ah putain, mais c'est une manière de faire, d'accueillir la bouffe, la bonne humeur, je sais pas, l'espèce de truc où c'est pas facile en fait de faire une tournée. T'es musicien, tu fais 10 dates en 2 semaines. Et en fait, nous, le point d'orgue, c'est qu'on, entre guillemets, on vend notre truc en disant, mais en fait, ici, c'est la meilleure auberge des Alpes. Et en fait, c'est limite le truc qui est le plus plaisant, mais presque, quoi, c'est de se dire que les gens, ils repartent. Et ils ont trop bien bouffé, trop bien dormi. Des fois, il y en a qui restent 2-3 jours. C'est, vu que c'est un lieu de vie, c'est pas comme, tu vas dormir à l'hôtel ou dormir dans une espèce de local aseptisé ou local complètement pourri. T'es comme si les programmateurs, en fait, ils te font dormir chez toi, quoi. En fait, du coup, il y a un truc simple.
Chez eux,
ouais.
Ouais, ça c'est...
Et ouais, moi, je trouve que cet aller-retour, il est hyper nourrissant. Donc il est nourrissant humainement, il est nourrissant sur des pratiques quotidiennes de vie, et il est nourrissant sur artistiquement en fait. Parce que les gens, ils sont bien, du coup ça tchatche de ce qu'ils font, et de manière assez assez posée, quoi. Pas comme dans un lieu institutionnel où tu sais pas qui c'est, qui machin, t'as programmé, je sais pas, comme un espèce de truc de pouvoir.
Et puis c'est un espèce de truc de sacralisation de l'artiste.
Voilà, ouais. Là, 10 ans, il y a une bande de jeunes qui viennent et qui veulent commencer à avoir des subventions et salarier des gens. Mais là, t'as 30 personnes qui vont débouler, qui vont être au courant, qui vont débouler à la réunion, qui vont s'inviter, qui vont dire en fait non, ça se passe pas comme ça. Vous avez raté une étape. Tu vois, s'il y a eu une mauvaise passation.
Que l'histoire passation, c'est des équipes entières qui sont...
Non, mais quand je te dis passation, c'est des choses qui peuvent s'étirer. Alors, c'est arrivé que des fois, il y a des gens qui sont arrivés un peu en groupe, qui aient bousculé des choses, qui aient proposé des nouvelles choses en termes de programmation. Mais c'est plus ce truc de tenir, ok, pas de salariés, pas de gens qui font de l'argent. Nous, par exemple, quand on se programme, parce que ça arrive, là, cette année, par exemple, moi, j'ai proposé quelque chose à Archipel Urbain. Et du coup, j'ai fait mon install. Émilie, elle a proposé ses conférences. C'est une sorte d'autoprogrammation, quoi. Vous appelez un chat un chat. En fait, on se paye pas. On se paye pas. Il y a personne qui fait de l'argent ici, quoi. Et pour lui, on va dire. Les gens qui font vivre le lieu ne gagnent rien à part des connaissances, de l'écoute... Ouais. Des rencontres, alors c'est sûr que forcément tu fais vivre le culturel, tu rencontres du monde, hein. C'est aussi c'est enrichissant là-dessus, quoi. Mais c'est un espèce de dogme, et en fait, il est génial, ce dogme. Il est vraiment génial. C'est un truc... quelque chose qui fait que c'est que le temps et les gens qui font qu'il se passe quelque chose. Mmh. Voilà, c'est pas l'argent. Et ça change énormément la donne.